Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
Et bienvenue à tous, jusqu'à 18h, on va vivre tous les moments clés de cette séance, très intéressante, pas mal de publications encore, une déception aujourd'hui, Airbus, on en parlera, Eramet de son côté qui s'envole, mais d'abord à 15h33, l'ouverture à Wall Street, c'est à New York que ça se passe effectivement. La cloche qui retentit sur place. Quelle tendance pour ce début de séance aux États-Unis avec de nombreuses publications, notamment dans la tech. John Plassard avec nous pour Mirabeau. Bonjour John. Et Étienne Braque.
Bonjour Guillaume.
Tour Euronext. Comment ça se passe, Étienne?
Ça se passe plutôt bien, avec notamment un Nasdaq qui récupère tous les points perdus hier soir à la clôture, avec une hausse de plus de 1,3% au-delà des 15 800 points, plus 0,1% pour l'indice Dow Jones, avec notamment les valeurs pétrolières qui pèsent sur la tendance, et puis le S&P 500 de son côté grappille 0,6%. Ça se passe bien pour Wall Street, avec notamment un indice Dow Jones qui gagne 0,3% sur l'ensemble de la semaine. Le S&P de son côté gagne 1,6% après avoir perdu 3% la semaine dernière, alors que la semaine a quand même été chargée en termes de publications d'entreprises, parfois décevantes, hein. On se souvient hier de la maison mère de Facebook. On se souvient également de données de croissance inférieures aux attentes. Et puis aujourd'hui, des données d'inflation supérieures aux attentes. Mais ça n'empêche pas le marché de progresser. Vous avez même l'obligataire qui se détend. 4,66 pour le 10 ans américain qui perd 4 points de base quand le 2 ans de son côté redescend légèrement sous les 5%. Deux valeurs pèsent sur le Dow Jones aujourd'hui. ExxonMobil avec des résultats un petit peu en dessous des attentes. Ça se normalise forcément avec les prix du gaz qui ont baissé et le pétrole. La valeur perd un peu plus de 2% quand Chevron de son côté fait mieux que prévu. Mais la valeur est bien étant légère hausse, hein, plus 0,1% pour Chevron. Donc tout ça, eh bien, ça pèse légèrement sur l'indice Dow Jones qui donc sous-performe dans les premières minutes de cotation.
Et un indice d'inflation que la Fed suit comme le lait sur le feu, l'indice PCE, effectivement, John, il confirme cet indicateur que l'inflation aux États-Unis est toujours de mise.
Oui, tout à fait, Guillaume, mais l'inflation mensuelle est à 0,3%. C'est en ligne avec ce qu'on attendait. C'est pour ça que c'est un soulagement aujourd'hui. Par contre, si on regarde le niveau des taux annuels, on est à 2,7%, alors que le consensus attendait 2,6% et qu'en mars, on était à 2,5%. Donc, on passe de 2,5 à 2,7. Attention, ça chauffe un peu sur l'inflation aux États-Unis. Et ce qui a aussi rassuré un peu les marchés, ce qui leur permet de progresser aujourd'hui, c'est qu'on a aussi eu en parallèle la consommation des ménages qui est de 0,8% alors que le consensus était à 0,6%, c'est-à-dire que les Américains continuent bien évidemment à consommer et les revenus personnels sont à 0,5% alors qu'ils étaient à 0,3% en février. Ça voudrait dire que les Américains gagnent un peu plus d'argent et peuvent dépenser un peu plus.
Effectivement. Alors, on a cette inflation qui colle et puis quand même la croissance qui ralentit. C'est ce qui ressort du chiffre de croissance du premier trimestre hier. Au point, Étienne, qu'on réentend parler d'une possible, on verra, stagflation.
Oui, stagflation avec donc une inflation qui est toujours présente et puis dans le même temps une croissance faible. Alors, est-ce que ce terme peut être utilisé, John Plassard, ce terme de stagflation? Et puis, si c'était le cas, ça change quoi aujourd'hui pour Wall Street, pour les marchés et puis en termes d'allocation pour nos auditeurs téléspectateurs?
Alors, ça change beaucoup de choses, Étienne. D'abord, stagflation, on n'y est pas encore, mais vous l'avez dit, c'est une baisse de la croissance, une hausse ou une inflation très élevée. Et ce qui est très intéressant de noter, c'est que dans les périodes de stagflation, eh bien, on a vu que le S&P 500, par exemple, ne bougeait pas, avait des variations diverses. Mais c'est au sein du S&P qu'il faut regarder. Et en période de stagflation, eh bien, vous avez les secteurs défensifs tels que les services publics, les biens de consommation de base ou l'immobilier qui font nettement mieux que les valeurs cycliques, la technologie, l'industrie, les services financiers qui sont en retard. Et tenez-vous bien, Étienne, ce qui est très intéressant, c'est que dans les périodes de stagflation, eh bien, il faut aussi parier sur les valeurs énergétiques qui pourtant sont des valeurs cycliques mais qui ont tendance à surperformer le marché. Donc si vous êtes en stagflation, vous achetez des valeurs défensives, vous vendez les valeurs cycliques à part l'énergie.
Stagflation, on n'y est pas, effectivement. Mais c'est vrai que la croissance tend à ralentir alors que l'inflation repart un tout petit peu, l'indice PCE. On y reviendra tout à l'heure, bien sûr, avec l'ensemble de nos experts. Et pendant ce temps, la présidentielle américaine, on est à 195 jours du D-Day. Et Joe Biden vient de dégainer ses nouvelles propositions de taxation. S'il devait être réélu, ça s'annonce explosif, John.
Oui, tout à fait. C'est la première proposition de Joe Biden, très, très concrète. Hein. Il propose un taux d'imposition record de 44,6% sur les plus-values contre 24% aujourd'hui. C'est-à-dire très concrètement que si vous vendez votre entreprise, eh bien, vous payerez un taux d'imposition de près de 45%. Plus impressionnant encore, vous avez les plus-values qui ne sont pas indexées sur l'inflation. Et en parallèle, Joe Biden hier a également proposé d'augmenter l'impôt sur les sociétés à 28%, alors qu'aujourd'hui elles sont à 21%. Vous vous souvenez, Donald Trump avait baissé ça. Et ce qui est très intéressant de noter, c'est que les journaux américains, évidemment, font leur chou gras aujourd'hui en rappelant que le taux marginal d'imposition des plus-values en Chine sont de 20%. Donc Joe Biden se imposerait les plus-values de plus du double de ce que fait la Chine aujourd'hui. Évidemment, vous imaginez bien que les républicains sont en rage contre ces potentielles décisions.
Ah, on entend parler de la France, c'est Cuba sans le soleil. Oh, et si les États-Unis devenaient Cuba sans le soleil, ce serait quand même incroyable. À suivre, en tout cas. Et voilà, ça fera partie effectivement des éléments de cette campagne américaine qu'on continue de surveiller comme le lait sur le feu. Il est avec nous depuis la Tour Euronext, il suit les marchés à Wall Street. On est en hausse, mais en Europe aussi, Étienne. Il y a une valeur dont on n'a pas l'habitude de parler dans USA Today, mais aujourd'hui, on va le faire. Total Energy. Un lien, effectivement, peut-être à venir entre Total Energy et Wall Street.
Et oui, et Total Energy qui gagne 2,6% avec deux actualités, des résultats supérieurs aux attentes. Ça propulse le titre sur des plus hauts historiques à la porte des 70 euros. Et puis, John Plassard, une interview dans Bloomberg qui fait polémique aujourd'hui. Patrick Pouyanné réfléchit à côté son entreprise à New York. Et ça ne serait pas une double cotation, hein. Ça serait clairement déplacer Euronext, sa cotation ici, à au Nasdaq.
Exactement, ça paraît assez incroyable. Mais vous savez, il y a deux raisons fondamentales. D'abord, il faut rappeler que Total Energy s'est associé à Corio Generation et Rise Light aux États-Unis pour développer conjointement un projet éolien offshore qui se situe au large des côtes de New York et qui produit, tenez-vous bien, Étienne, 3 gigawatts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fournit de l'électricité verte à plus de 1 million de foyers dans cet état de New York. Ce qui est aussi assez intéressant de noter, c'est que Total Energy devient, qu'on le veuille ou non, de plus en plus vert et renforce sa capacité à délivrer des projets éoliens offshore rentables. Et ils estiment qu'à New York, ce serait la meilleure des places pour être coté. Et la deuxième raison, bien évidemment, c'est que, notamment aux États-Unis, les fonds de pension et les grandes banques, eh bien, ont une vision totalement différente de l'ESG et les groupes comme Total et comme Exxon, eh bien, rentrent dans les cadres des fonds ESG aux États-Unis. Donc, ce serait potentiellement les deux raisons à ce déplacement de Total du CAC 40 à New York.
Avec une part du flottant de plus en plus américaine en plus. Hein. C'est ce que souligne Patrick Pouyanné avec les critères ESG ici en Europe. Les Européens achètent de moins en moins de Total Energy. Ils maintiennent leur position où ils les vendent, alors que les Américains, dit-il, eux, nous achètent et montent peu à peu. Au sein de ce capital, la proportion d'Américains progresse à un peu plus de 40% désormais. Mine de rien, une raison de plus peut-être donc à cette cotation à venir. On verra aux États-Unis, on en parlera d'ailleurs tout au long de l'après-midi. Une valeur à ne pas rater aujourd'hui ? Oh, il y en a plusieurs. On a plus de 3 minutes à passer ensemble, mais on va essayer quand même. D'abord Intel, c'est dans la tech que ça se passe. Intel, c'est la seule mauvaise surprise du jour. En tout cas, la seule grosse mauvaise surprise. Le titre perd 11% en ce moment, John.
Oui, tout à fait. Intel a publié une perte nette au premier trimestre. Elle est aussi assortie de prévisions pour la période en cours qui a déplu évidemment au marché. On parle ici de 400 millions de dollars au premier trimestre. Mais il faut rappeler que le groupe avait déjà annoncé une perte colossale de 2,4 milliards dans son activité de fonderie. Donc ça déçoit les marchés. Mais aujourd'hui, on peut dérouler le tapis rouge à deux valeurs. Microsoft qui a dépassé les les estimations du chiffre d'affaires et du bénéfice pour le T3. Et on a ici un message commun entre Microsoft et Alphabet. Eh bien, c'est l'adoption de l'intelligence artificielle dans les services du cloud. Et tenez-vous bien, Alphabet a déclaré, comme Meta, qu'il y a quelques mois, qu'il allait annoncer son premier dividende, un petit dividende de 20 cents, et un programme de rachat d'actions de 70 milliards de dollars. Donc ça plaît au marché et ça permet au Nasdaq de s'envoler aujourd'hui.
Le Nasdaq gagne effectivement beaucoup de terrain, plus 1,3%. Vous citiez Microsoft, le titre Microsoft gagne en ce moment 2%, mais c'est surtout Alphabet en progression avec les rachats d'actions. Effectivement, le premier dividende de son histoire, Alphabet gagne 10%. Voilà. Voilà l'ouverture des marchés américains et on va continuer d'en parler, bien sûr, tout au long de l'après-midi. Merci beaucoup, John. John Plassard depuis les bureaux de Mirabeau. Étienne nous accompagne aussi depuis la Tour Euronext, bien sûr. Vous n'hésitez pas, Étienne, à nous rappeler dès que les variations de séance le méritent. On est sur une belle hausse, là, à Paris. Plus 0,9%. Et à Wall Street aussi, le S&P gagne 0,7%. 15h43, la bourse cash. Charles Monod nous rejoint, le président de Monocle Asset Management. Bonjour, Charles.
Guillaume, bonjour.
Et bienvenue. Vous venez dire au marché leurs quatre vérités. Vous êtes sûr?
Alors là, on va parler de sac à main.
Donc il est sûr. Il veut... Non mais... Eh, hey, le process! Vous êtes sûr?
Oui, je suis sûr.
Ah, voici votre message aux investisseurs.
Attention, Charles. Attention.
Ah oui.
Moi, je vais directement dans le sujet.
Ah bah direct. Vous venez dire aujourd'hui aux investisseurs de bien regarder ce qui se passe, effectivement, sur les sacs à main, sinon ça faisait un peu bizarre peut-être. Le sac à main, c'est votre message aujourd'hui. Le sac à main est en train de devenir le nerf de la guerre, le nerf de la guerre contre l'inflation.
Un enjeu vital.
Un enjeu vital même. Ce propos, vous l'assumez?
Complètement.
Pourquoi?
Je suis sidéré que dans le monde actuel, où il y a un vrai problème de pouvoir d'achat aux États-Unis, la FTC, qui est donc l'antitrust américaine, soit focalisée sur un deal, c'est aller défendre le prix du sac à main de luxe, oui, de luxe accessible, mais de luxe quand même pour les Américaines. C'est-à-dire que la FTC vient de décider qu'elle allait bloquer la fusion entre Tapestry, qui est donc le groupe qui détient les marques Coach ou Kate Spade, et Capri, qui détient Michael Kors, Versace et Jimmy Choo.
Ils ont bloqué ce rapprochement et peut-être...
Ils ont bloqué, ils expliquent textuellement dedans qu'il faut protéger des millions d'Américaines pour qu'elles puissent acheter leur sac à main. Pas trop cher, alors c'est quand même du sac à main de luxe, mais pas trop cher.
Et ce rapprochement aurait du coup limité la concurrence et entraîné des hausses de prix. C'est pour ça, en fait, il bloque cette concentration, cette opération de rapprochement pour éviter une hausse des prix dans cet univers des sacs à main. C'est ça l'idée.
Exact. Alors, il faut vraiment qu'ils définissent très bien l'univers sacs à main parce qu'on sait tous que c'est un univers extrêmement large dans lequel il y a des grandes marques de luxe comme LVMH ou Gucci ou Hermès, dans lequel il y a des marques plus bas de gamme en dessous. Donc, il faut que, s'ils réussissent à avoir un antitrust qui fonctionne, il faut qu'ils définissent un marché très étroit. Donc, ils le définissent comme les sacs à main de ce qu'ils appellent le affordable luxury, c'est-à-dire du luxe accessible. Donc, ils définissent le marché de manière assez étroite comme ça. Ce qui étonne beaucoup de gens qui évoluent sur ce secteur où ils disent qu'il y a des milliers d'acteurs sur ce marché du sac à main, en fait.
Et surtout. Il y aura toujours de la concurrence
et que ça n'a pas franchement l'air d'être l'enjeu majeur, là, de ce que devrait faire l'antitrust américain aujourd'hui.
Donc l'antitrust fait du zèle. Enfin, comment est-ce qu'on interprète? Les autorités américaines sont en train de sortir une arme non conventionnelle face à la.
Alors, il y a deux choses inquiétantes là-dedans. Une un peu décevante, c'est qu'au lieu de s'attaquer aux géants qui sont un peu trop puissants pour eux, bon, ils ont essayé de s'attaquer à Microsoft contre Activision, ils se sont pris des claques, donc ils s'attaquent maintenant plutôt aux nains, c'est plus facile. C'est un côté un peu moins sympathique. Et le deuxième qui est un peu plus gênant derrière, quand on lit exactement ce qu'a publié la FTC dessus, c'est qu'elle dit que, par exemple, Tapestry a une longue histoire d'acquisition externe pour construire son portefeuille et que ça, ils ne le veulent plus. Donc, quelque part, comme l'expliquait le Financial Times dans un article il y a deux jours, c'est quand même toute une démarche de construction horizontale de part de marché, qui est en particulier beaucoup ce que font les fonds de private equity quand ils rachètent des cibles, qui est visée derrière ce deal-là par la FTC, en fait. Donc, au-delà de ce deal particulier, il y a quand même tout un pan de l'économie de marché et de la finance, d'acquisition et de développement, disant je prends une marque, puis deux marques, et je fais du build-up comme ça pour grossir mon activité, qui est visée directement par ce que fait la FTC aujourd'hui.
Vous pensez que la FTC qui fait peut-être un peu de zèle, donc, pour essayer de limiter l'inflation dans cet univers des sacs à main, en bloquant ce rapprochement, vous dites quoi? Que c'est le début d'une longue série? Enfin, c'est le signe prémonitoire, effectivement, d'une régulation, en tout cas d'un contrôle encore accru, effectivement, des autorités sur le comportement des entreprises, leurs éventuelles ambitions capitalistiques, parce que tout pourrait servir de prétexte face à l'inflation?
Alors, c'est exactement ce que vise la FTC. Après, c'est par sa présidente très jeune, Lina Khan, qui a été nommée en 2021 par Biden. Bon, on sait tous qu'il y a des élections présidentielles américaines qui arrivent. C'est pas forcé qu'elle reste toujours à son poste. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est étonnant de voir une décision aussi peu stratégique à la fois sur le consommateur américain et en même temps avec un argumentaire derrière qui vise au-delà de ça quand même vraiment tout ce qui est acquisition horizontale.
Intéressant, voilà l'inflation et comment les autorités ajustent le tir face à cette inflation, y compris parfois en voulant limiter les rapprochements entre entreprises. Étienne nous appelle 15h48 depuis la tour Euronext à nouveau. Rebonjour Étienne, c'est une grosse séance de publication encore aujourd'hui en Europe. Comment le CAC encaisse-t-il aujourd'hui ?
Bah écoutez, il encaisse très bien, puisqu'il est à nouveau à la porte des 8100 points. Ça va très vite, il a décidément pas envie de baisser, au point que les valeurs qui ont été pénalisées ces derniers jours après des publications en ligne avec les attentes ou sous les attentes se reprennent déjà. Regardez Hermès qui reprend plus d'1%, Kering 3,8% de progression, Total Energy qui surprend positivement avec ses résultats et son éventuel déplacement de cotation prend plus de 2% sur un record historique à 69 euros. Et puis à noter les cours du pétrole également qui se reprennent, donc ça propulse le titre. Les volumes d'échanges, contrairement à hier, ils se calment aujourd'hui. 1,3 milliard d'euros négociés dans l'indice parisien et c'est une semaine qui se déroule bien à la Bourse de Paris avec un CAC 40 qui grappille 0,8% sur l'ensemble de la semaine et le CAC est en passe de clôturer sa deuxième semaine dans le vert.
Effectivement. Les cours du cuivre aussi qui sont en hausse, qui achèvent une belle semaine les cours du cuivre, mine de rien, puisqu'ils ont tout à l'heure dépassé les 10 000 dollars la tonne. On en a beaucoup parlé d'ailleurs hier des cours du cuivre, aussi avec une fusion-acquisition qui finalement n'aura pas lieu. Mais enfin, peut-être y aura-t-il des surenchères, on verra. 10 000 dollars la tonne, en tout cas, c'est la première fois en deux ans que le cours du cuivre dépasse ce niveau. On en reparlera et c'est vrai que nos différents intervenants de l'émission parlent régulièrement de ce potentiel du cuivre et nous apportent des idées pour y investir. On vous interroge aussi sur nos réseaux sociaux, notre fil X LinkedIn, notre fil X BFM Bourse et LinkedIn aussi. Vous pouvez bien sûr vous abonner à ces différents fils de BFM Bourse. Et cette question aujourd'hui, elle concerne Total Energy. Le PDG de Total Energy, Patrick Pouyanné, n'exclut pas une cotation à Wall Street, voire même Total Energy qui serait principalement cotée à l'avenir à Wall Street plutôt qu'à Paris. Pourquoi pas ? Pour vous, Total Energy doit-il effectivement quitter la Bourse de Paris ? Oui ou non ? Ou plaidez-vous peut-être pour une double cotation ? Vous êtes assez nombreux d'ailleurs à répondre. Continuez, n'hésitez pas, laissez-nous aussi vos arguments en commentaire. On va rebondir dessus tout au long de l'émission. Charles, Total Energy attiré par une cotation principale à Wall Street. Comment est-ce que vous l'interprétez ?
C'est sûr que Wall Street est un marché beaucoup plus actif que le marché parisien. Donc ça, ça attire. Et aussi que les Américains adoptent de plus en plus ils vont vers l'ESG de manière un peu plus modérée, on va dire, que l'Europe. Donc c'est sûr que pour un acteur comme Total, les Américains présentent des atouts certains.
Les acteurs pétroliers américains, par exemple, parviennent à beaucoup mieux se valoriser. Quand on regarde le cours d'un Chevron, d'un Exxon à Wall Street, c'est des cartons en bourse plus que Total. Alors aujourd'hui, Total Energy est sur un record historique, c'est vrai. Mais en termes de variation boursière, les acteurs pétroliers américains progressent plus qu'un Total Energy, par exemple.
Ça, c'est valable dans tous les domaines, en fait. Je me rappelle, il y a très longtemps, d'une des boîtes qui s'appelait Celanes, qui avait acheté Blackstone, et dont le patron de Blackstone racontait dans ses mémoires que ils avaient gagné énormément d'argent simplement en la délistant d'Allemagne et en la relistant aux États-Unis. Le marché des capitaux américains est beaucoup plus dynamique que le marché français. Ça ne veut pas forcément dire que les valeurs à l'instant T sont toujours plus justes, il y a plus de volatilité, mais c'est certain que c'est un marché beaucoup plus dynamique où il y a plus de flux.
Est-ce que vous vous dites que l'ESG est en train d'affaiblir l'Europe ? Parce que c'est ce qu'explique Patrick Pouyanné, justement, il dit les Européens maintiennent leur position dans Total, voire les allègent, alors que les Américains se renforcent beaucoup au capital de Total. Ils achètent en bourse le titre Total plus que les Européens désormais, si bien dit-il que les Américains sont en train de progresser à presque 50% désormais du capital flottant de Total Energy. À cause de l'ESG peut-être, on ne sait pas. Enfin, sans doute, on sait que les Européens achètent moins de Total Energy désormais parce que dans un certain nombre de portefeuilles labellisés, Total Energy n'est désormais plus éligible.
Ouais.
Parce que la stratégie aussi de diversification ne convainc pas tout le monde. Est-ce que vous vous dites qu'effectivement l'ESG d'une certaine façon risque d'affaiblir les marchés européens et de convaincre en effet des groupes comme Total Energy d'aller plutôt voir ailleurs comme à Wall Street ?
C'est compliqué de répondre à cette question, Guillaume. C'est un truc à me prendre des tomates par une bande de pro-ESG demain en sortant d'ici. Mais c'est sûr que s'il commence à y avoir, l'ESG était une énorme contrainte pour tous les gérants financiers. Il est bien qu'elle vienne, mais c'est une énorme contrainte. Si un système, les Américains commencent à dire on lève cette contrainte et l'autre système commence à la laisser, c'est sûr que vous aurez des flux et de capitaux et de sociétés qui se font coter dans le système le moins contraignant des deux. Ça, c'est certain.
Oui. Puis il y a plus d'argent, effectivement, qui s'investit sur le marché américain. Vous le disiez, il y a beaucoup d'entreprises européennes hein, déjà investies, enfin, cotées à Wall Street. AstraZeneca, ouais. C'est un groupe anglais, ils sont à Wall Street. Birkenstock, les sandales allemandes, ils sont à Wall Street. ARM, il y a quelques mois, qui s'était introduit à Wall Street, par exemple. Possible double cotation aussi entre Paris et New York. Enfin, c'est intéressant, une double cotation. Par exemple, Apple est cotée. Il y a plusieurs cotations d'Apple. Il y a bien sûr Wall Street, mais ils ont aussi une cotation, je crois, à Francfort. Ça sert à quoi une double cotation pour une entreprise? Enfin, quel est l'intérêt?
Je me rends pas compte forcément. Ce qui est sûr en plus aujourd'hui, c'est que les volumes quand même en global baissent. Mm-hmm. D'accord? Il y a quand même de moins en moins de liquidités. Donc, en tant que gérant, vous voulez passer sur le marché le plus liquide. Donc, tout le monde traite quand même sur les, enfin, s'il le peut, s'il n'y a pas de contraintes géographiques, sur les endroits où il peut passer le plus facilement.
Ouais, l'assèchement des volumes est un argument plus en faveur du marché premier en termes de volume, à savoir Wall Street.
Bon. Exactement.
Justement, les États-Unis, vous en êtes un spécialiste de ce marché américain. On est au cœur de la saison de publication. Quel bilan, quel a été pour vous au cœur de cette saison? On n'est qu'au milieu. Hein. La meilleure surprise jusqu'ici à Wall Street.
En termes de résultats, objectivement, les résultats de Meta d'avant-hier sont extrêmement impressionnants. Le titre s'est pris une claque parce que c'était valorisé très cher, mais la puissance des résultats de la société sont quand même extrêmement impressionnants quand on regarde ce qu'ils réussissent à faire en termes de résultats nets d'une année sur l'autre.
Alors oui, c'était le premier trimestre le meilleur de leur histoire chez Meta. Ceci dit, pour la suite, encore plus d'investissements, de coûts d'investissement que prévu initialement dans l'intelligence artificielle pour des revenus d'intelligence artificielle, eux qui ne seront pas amenés à progresser beaucoup.
C'est ça qui fait peur au marché, c'est de se dire que Zuckerberg est reparti un peu comme avec la métaverse, genre il a pris son chéquier, il fait ce qu'il veut. Mmh. Donc ça, c'est vrai que ça peut être inquiétant. Bon, peut-être qu'il aura retenu la leçon des trois années précédentes, mais en tout cas, en termes de puissance, de ce que ça dégage d'une année sur l'autre, c'est très étonnant dans nos métiers de voir des packs d'eau de cette taille-là qui ont des accélérations qui sont celles de bateaux offshore, quoi. Ça, c'est quand même.
Mais j'aurais pensé que vous répondriez Microsoft en hausse de 3% après sa superbe publication aussi. Et alors Alphabet, la maison mère de Google, superbe publication. Et en plus, versement d'un premier dividende. J'aurais pensé que vous répondriez peut-être Microsoft ou Alphabet plutôt que Meta, mais...
Alors non, je suis plus surpris par Meta. Ah, bon. Alphabet, il partait d'une base, si on regarde en séquentiel, qui était un peu plus calme l'année dernière, donc il a un peu plus de marge de manœuvre. Et Alphabet, il y a un truc qui est inquiétant quand même, c'est que vous pouvez aujourd'hui chercher sur des alternatives à Google Search, ce qui n'était pas le cas avant, avec l'AI, sur OpenAI, sur quelque chose, des réponses à des questions, y compris sur l'outil interne de Google. C'est-à-dire, si vous posez une question dans Gemini, vous n'avez pas de pub et pas de flux. Donc, est-ce que cette menace-là de risque, elle pèse ou pas sur Google? Quand Microsoft a sorti OpenAI, il a dit qu'il venait attaquer directement le monopole de la recherche de Google. Ça, c'est pas du tout dans les prix d'aujourd'hui, parce que ça attaque pas aujourd'hui, mais dans les cash flow futurs de Google, c'est une vraie question quand même.
Charles Monod, et la semaine prochaine, Amazon et Apple vont publier. Apple, ce sera jeudi, et Amazon, je crois, mardi soir.
C'est ça, c'est des semaines lourdes, mais un peu agitées et intéressantes.
Profitez bien du week-end, rechargez les batteries. Merci Charles. Charles Monod, le président de Monoc, l'Asset Management, régulièrement à nos côtés. Bon retour, Charles. Wall Street, en tout cas, en hausse grâce à ses valeurs tech, à part Intel, quand même, qui recule très nettement de son côté, moins 10% Intel, mais enfin, le reste est positif, et le Nasdaq gagne 1,8%. Paris aussi en hausse, plus 1% pour le CAC 40.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Un pas de côté et une idée comme chaque vendredi pour diversifier vos investissements, les fonds de dette privée. Comment y investir? Mireille Wimbert est avec nous, rédactrice en chef adjointe du magazine Capital. Bonjour Mireille. Bonjour. Vous êtes en forme Mireille?
En pleine forme. Pleine forme. Et vous?
Non, ça va. Il y a de plus en plus de fonds de dette privée dans l'assurance vie, c'est vrai, on les voit pulluler. De quoi s'agit-il?
Alors ce sont de nouveaux supports au sein des contrats d'assurance vie. Donc vous savez, au sein de l'assurance vie, les épargnants peuvent choisir entre un certain nombre de supports. Il y a le fonds en euros, puis il y a tout le reste. Et dans tout ce reste, qu'on appelle unité de compte, eh bien il y a une nouvelle unité de compte, quelque chose d'un nouveau genre qui s'appelle fonds de dette privée. Ce sont des FCPR, donc c'est le même outil juridique que le private equity dans l'assurance vie. Mais dedans, on n'achète pas des actions, on fait des prêts à des entreprises. Ce sont des fonds de dette privée. Donc qu'est-ce que c'est? Un fonds, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prêter à une soixantaine, 80-60 entreprises. Et vous, quand vous investissez dans ce fonds, vous prêtez à ces entreprises. Alors c'est quoi ces entreprises? C'est des ETI, des PME européennes. Et pourquoi est-ce qu'elles font appel à ce type de financement-là? C'est parce que depuis la crise de 2008, en fait, le monde bancaire a un peu changé en matière d'aide aux entreprises et les banques prêtent de moins en moins à long terme aux entreprises. Elles prêtent des crédits court terme, des crédits de trésorerie. Mais pour ce qui est du long terme et du développement des entreprises, les très grosses, ça va. Pour les TPE et les ETI, elles ont besoin de faire appel à d'autres types de financement. C'est le financement via ces fonds-là.
effectivement les fonds de dette privée dans l'assurance vie. On en voit de plus en plus. Dans quel contrat est-ce qu'on peut en trouver?
Alors on en trouve historiquement le premier, je crois que c'était MACSF. Donc c'est Tikeo qui était l'opérateur et qui leur avait créé un fonds de dette privée, enfin pour MACSF. Donc il y est toujours. Donc c'est depuis 2021 là. Et depuis on a Suravenir. Donc ça c'est la filiale de Crédit Mutuel Arkéa. On a Société Générale avec Sogecap et on a aussi, je crois, BNP Paribas. Là c'est pas Tikeo, c'est avec Blackstone il me semble. Et donc ça commence à se développer.
Et pour l'épargnant, quel est l'intérêt aujourd'hui d'investir dans la dette privée d'entreprise? Il y a le private equity, on connaît, vous investissez au capital, là c'est de la dette privée. C'est quoi l'avantage?
Alors, l'avantage pour un épargnant dans l'assurance vie, c'est que c'est nécessairement, enfin on l'espère, plus rémunérateur que le fonds garanti en euros. Vous savez, le fonds garanti en euros, on ne peut pas faire de perte. En 2023, la moyenne de rendement était à 2,60. En 2022, c'était 1,91. Avec des fonds de dette privée, on estime qu'on peut faire deux fois ce que fait le fonds garanti en euros. Donc c'est une espérance de rendement qui est plus intéressante et qui permet de diversifier à côté du fonds en euros, effectivement. Alors la différence, vous allez me dire, bah oui, mais si vous voulez du rendement, prenez donc un fonds de private equity au sein de l'assurance vie. C'est vrai, les fonds de private equity sont plus rentables que les fonds de dette privée. Un fonds de private equity au sein de l'assurance vie, ça va vous faire entre 8 et 15% de rendement. Un fonds de dette privée, ça fait entre 5 et 7,5, on va dire. Le fonds de dette privée a cet avantage qu'il est plus sûr. C'est toujours le même débat obligation versus action, parce que là, en fait, c'est un prêt. Donc, c'est quelque part une obligation, c'est un crédit, c'est pareil. Hein. Donc ça, c'est plus sûr qu'une action. Et puis surtout, quand vous prêtez, eh bien, vous avez un intérêt qui tombe. Donc c'est plus rassurant pour l'épargnant, parce que vous savez, quand vous prenez un fonds de private equity, finalement, tant que vous n'êtes pas au terme, vous ne savez pas combien vous aurez de plus-value et si vous en aurez une. Là, eh bien, tous les trimestres ou tous les semestres, les entreprises du portefeuille remboursent. Et donc,
visibilité.
Cet intérêt est capitalisé et votre valeur liquidative, la valeur du fonds, elle augmente régulièrement. Alors, donc pour l'épargnant, c'est rassurant.
D'accord. Alors, sauf que les intérêts, ils ont eu tendance, le taux d'intérêt a progressé avec la montée des taux des banques centrales. Oui. Et là, on va peut-être vers des baisses de taux désormais. Du coup, est-ce que ça va devenir pour l'avenir moins intéressant?
Non, parce que finalement, c'est toujours la même surperformance par rapport au fonds en euros, finalement. Si les taux d'intérêt rebaissent, ils rebaisseront pour tout. Le fonds en euros va rebaisser un petit peu aussi et le reste aussi. Aujourd'hui, les fonds de dette privée aux entreprises à 8-10% avec les taux élevés qu'on a aujourd'hui. Avant que les taux ne montent, elles prêtaient à 5-6%. Donc c'est encore, vous voyez, des rendements qui sont tout à fait agréables et qui peuvent effectivement faire deux fois le fonds garanti en euros.
Mireille Wimbert, rédactrice en chef adjointe au magazine Capital. Merci Mireille d'être passée nous voir. Donc investir dans les fonds de dette privée en assurance vie, il y a de plus en plus d'offres. Ce n'est pas forcément des offres luxueuses d'ailleurs, ça devient de plus en plus accessible.
On peut y entrer sans ticket d'entrée élevé.
Voilà. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Effectivement. Merci beaucoup, Mireille, d'être passée. Le CAC 40 gagne 0,9%. Vous pouvez nous suivre aussi sur bfmbourse.com. Cet article consacré à Airbus, c'est quand même la déception du jour Airbus. Le titre souffre, la rentabilité et le cash déçoivent les marchés. Les détails dans cet article consultable. Et nous, on se retrouve dans un instant. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.